Les indépendances, bien sûr, après, nous sommes en 2000 maintenant, nous sommes en 2004, ont eu lieu, paraît-il, dans les années 60. Le résultat, c'est que ces pays-là sont totalement sinistrés aujourd'hui, politiquement et économiquement et de toutes les façons. Donc, il y a une cause à ce désastre. Alors, une nouvelle idéologie dont on reparlera aujourd'hui est en train de s'installer pour dire que c'est forcé puisque c'est des Africains. Alors, il faut revenir justement sur cette histoire qui n'a jamais été faite, ni l'histoire du colonialisme, ni l'histoire des pseudo-décolonisations. Dans les, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le Cameroun, puisque j'ai été l'épouse de Mongo Betty qui est décédée en 2001 et qui toute sa vie, durant, a lutté par l'engagement, par l'écriture, par le roman, par l'essai, pour son pays, pour l'émancipation des Africains. Dans les années 60, le Cameroun, comme le Togo, était donc issu de la des colonies allemandes et il était territoire sous mandat. En fait, la France l'a administré exactement et totalement comme une colonie totalement assujettie, puisqu'elle y a levé des troupes. Si Leclerc a pu avoir des troupes pour conquérir le Tchad et remonter vers la Libye, c'est avec des Camerounais, puisqu'il est débarqué à Douala et qu'il a constitué ses troupes au Cameroun. Et s'il avait une poignée de Français résidant en Afrique centrale, la grande masse de ses troupes était des Camerounais. Donc c'est avec... ça c'est un fait aussi, assez mal connu. Le Cameroun a été administré absolument comme une colonie et lorsque, au moment de 1958, les revendications d'indépendance sont fait jour dans ces territoires, il y avait un grand leader camerounais issu du syndicalisme et qui était extrêmement renommé et populaire. Il s'appelait Ruben Umniobe. Et c'est lui qui a porté la revendication d'indépendance. Il a été pourchassé, il a dû prendre le maquis, il a été assassiné dans le maquis en 58, et l'indépendance a été remise à un employé de la France qui a continué, parce que les maquis au Cameroun ont duré jusque dans les années 70, qui a continué avec l'aide de la France et d'un corps expéditionnaire français une répression atroce qui s'est soldée par des centaines de milliers de morts. Je lisais cette semaine un manuel d'histoire de terminale, parce que je recueille des livres scolaires, parce que je m'occupe de livres au Cameroun, et je jette un coup d'œil sur ce livre d'histoire de terminale en France, terminale des terminales françaises, où on parlait de la décolonisation, qui était présentée comme un processus aimable et extrêmement bienfaisant, est totalement pacifique. Alors, c'est faire l'impasse sur, si on connaît la guerre d'Indochine, si on connaît la guerre d'Algérie, on ne connaît pas la guerre au Cameroun, on ne connaît pas du tout l'écrasement sanglant pendant plusieurs dizaines d'années de la révolte des Camerounais pour accéder à une véritable indépendance. Ce pays a été maintenu sous la botte de dictateurs assujettis, d'abord sous Ahidjo, jusque dans les années 80, et ensuite, avec les socialistes, comme il fallait rafraîchir un peu la façade, il y a eu une révolution de palais qui a amené un second, avec Biya, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, sans qu'il y ait jamais eu, bien sûr, ni élection, bien que depuis une dizaine d'années, il paraît qu'il y a des élections. On vous a décrit tout à l'heure le processus de ces élections, c'est absolument identique au Cameroun. Donc, vous avez un état de choses absolument scandaleux et totalement inconnu, parce que la grande presse française d'opinion, et paraît-il respectable, a toujours maintenu absolument le tabou sur les événements qui se passent réellement en Afrique. Pour avoir, justement, dans les années 70... Mongobetti a publié, par exemple, en 72, lorsqu'on a arrêté le dernier, paraît-il, maquisard, Ernest Ouandier, et avec lui un évêque censé être son complice, et qu'on leur a fait un procès et qu'Ouandier a été exécuté, jugé et exécuté dans les 15 jours, alors que les conditions du procès bafouaient toutes les règles du droit, Le Monde a, dans les comptes rendus du procès, toujours diffamé l'accusé, n'a donné jamais aucune information sur les conditions réelles du procès, etc., etc., etc. Avec, à ce moment-là, De Crane, qui tenait la page africaine du Monde, et De Crane, qui a fini par être écarté quand on a eu des soupçons qu'il était rémunéré par l'Afrique du Sud de l'apartheid. Alors, vous avez donc un certain nombre... À ce moment-là, Mongobetti décide d'écrire et d'exposer les conditions réelles de l'accession à la dépendance nominale du Cameroun, de la résistance des maquisards et de l'exécution du procès inique fait à ce dernier chef. Il y a eu d'autres assassinats. Le parcours du Cameroun est jalonné par les assassinats des leaders, Moumier empoisonné à Genève par un agent français, etc., etc., etc. Donc, quand Mongobetti écrit ce livre, qui sera publié chez Maspero en juin 1972, qui s'appelle « Main basse sur le Cameroun », le ministre de l'Intérieur français à l'époque, Marcellin, sur les exigences de Focard, saisit le livre, interdit le livre à ce moment-là. Donc, il s'en suivra, il l'interdit comme étant de provenance étrangère. Il y a en effet en France un décret qui a été pris en 1939 par la Chambre de l'époque qui permet de saisir tout écrit de provenance étrangère. C'était dans la panique de 1939 quelque chose qui a été pris pour contrer les écrits dont l'Allemagne inondait la France. Mais ce décret, étant donné qu'il porte atteinte aux libertés fondamentales, et si on suit ce décret, on peut interdire la publication d'une dépêche de l'agence Reuters, qui est un écrit de provenance étrangère. Donc, ce décret extrêmement... qui permet absolument toute atteinte à l'information, devait être ratifié par une loi, hein, par la Chambre. Cette loi n'a jamais eu lieu puisque la Chambre de 1939 a été dispersée, bien sûr, par la débâcle. Donc c'est sur ce décret d'une légalité douteuse que les gouvernements de la Ve République se sont appuyés pour saisir tout ce qui ne leur plaisait pas et essentiellement les écrits anticolonialistes. Ils ont saisi le livre d'un avocat, Jules Chaumet, sur l'ascension de Mobutu, un avocat belge. Ils ont saisi les numéros de la Tricontinentale chez Maspero, plusieurs numéros de la Tricontinentale qui étaient édités chez Maspero. Ils ont saisi le livre de Mongobetti, Main basse sur le Cameroun. Et nous avons soutenu pendant plusieurs années un procès pour recouvrer le droit, pour montrer que ce décret était illégal. Je vous passe les détails de cette bataille juridique qui nous a beaucoup coûté et qui a été extrêmement pénible, et parce que nous étions menacés, mon mari était menacé d'expulsion, etc., etc., de privation de ses droits. Bon, on a gagné parce que c'était un coup tordu par-dessous, mais à partir du moment où on a fait un procès pour qu'on juge la légalité de tous ces actes, on a gagné ce procès. Et le livre a pu reparaître chez Maspero en 1976, je crois. Donc aujourd'hui, il vient d'être réédité dans la collection Redécouverte, puisque c'est à la découverte qui a repris le fonds Maspero. Et Main basse sur le Cameroun est à nouveau disponible depuis le mois de novembre dernier. Donc vous voyez que tout était fait pour faire taire. Dans les mémoires de Focard, il dit qu'il faut faire taire ces emmerdeurs. Donc, tout était fait pour étouffer l'information, étouffer l'histoire, empêcher qu'on sache, et au profit d'une histoire officielle bien pensante et bienfaisante, où on voit une grande puissance venir au secours et protéger les faibles en Afrique. Cette caricature d'histoire a toujours cours, et elle est loin d'être démystifiée. Je reprends un autre détail, si vous voulez. Vous avez, ces jours-ci, on célèbre donc la libération, on est revenu et on revient à juste titre sur l'histoire des années douloureuses qu'on a vécues en Europe entre 40 et 46. Et vous avez en particulier la célébration de l'assassinat des gens d'Oradour-sur-Glane par les SS, toute la population exterminée, toute la population de cette petite localité, femmes, enfants, vieillards, exterminés par les SS, les affreux SS nazis, et M. Raffarin nous a dit « nous n'oublierons jamais ». Eh bien, si vous lisez le livre de Gide qui s'appelle « Voyage au Congo, retour du Tchad », Gide a été faire, dans les années 1926, un voyage. Donc, il avait été mandaté, d'ailleurs, pour faire une sorte de voyage, et il ferait une relation de découverte ethnologique, en quelque sorte. Or, Gide, qui n'est quand même pas le premier imbécile venu, a refusé de faire le travail que font tous les journalistes, le travail d'exotisme, hein, de rapport exotique sur ces aimables populations. Et il a vraiment recueilli toutes les informations qu'il avait sur la place. Or, à ce moment-là, dans l'actuelle Centrafrique, hein, dans l'Oubangui-Chari, il y avait la récolte du caoutchouc, parce que les automobiles naissaient, les grandes industries du pneu en France, hein, Dunlop, Michelin, puisque Dunlop est anglais, Michelin avait besoin de caoutchouc, et il fallait récolter du caoutchouc. Eh bien, la récolte du caoutchouc était faite dans des conditions d'une sauvagerie incroyable. Toutes les populations étaient obligées d'apporter du caoutchouc. Et une population rétive, des gens qui, lequel caoutchouc ne leur était pratiquement pas rétribué, donc c'était les travaux forcés, et une population, un village rebelle qui ne voulait pas apporter du caoutchouc, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé les troupes coloniales qui ont encerclé le village, qui ont enfermé les femmes et les enfants dans les cases, qui ont tué tous les hommes, qui ont brûlé les femmes et les enfants dans les cases. Ceci s'est passé historiquement en Centrafrique, et ce ne sont pas des SS qui l'ont fait, ce ne sont pas des SS talonnés par une armée adverse qui allait les battre, ce sont des gens absolument qui n'étaient pas attaqués par personne, hein, mais c'était des sauvages, hein, donc on pouvait les tuer. Donc vous avez, voilà le style. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais entendu la France demander pardon à qui que ce soit pour ses exactions. Donc, voilà, si vous voulez, l'histoire. L'histoire est à faire. L'histoire est entièrement à faire, à découvrir. Et vous avez, aujourd'hui, l'Afrique meurt de ses dictatures. Elle meurt de ces dictatures qui couvrent le pillage, puisque... si un pays a de la chance aujourd'hui en Afrique d'accéder à une vie plus moderne, plus démocratique et plus heureuse, eh bien, on lui souhaite d'être très pauvre. Parce que s'il a de la richesse, il sera maintenu sous la botte. Vous avez au Cameroun, par exemple, partout où il y a du pétrole, du bois, vous n'avez aucune chance qu'il y ait la moindre démocratisation, la moindre prise des populations, la moindre prise des populations sur leur propre histoire, parce que cela supposerait qu'ils prennent le contrôle de tout ce que recèle leur pays comme richesse. Donc vous avez, ces questions-là ne sont jamais abordées, elles ne sont jamais expliquées, et vous avez ce désastre africain. Vous le disiez tout à l'heure aussi, au Cameroun, 10% des Camerounais, il y a une population de 15 millions, Il y a plus de 10% des Camerounais qui sont partout dans le monde, mais pas chez eux, parce que tous les jeunes Camerounais n'ont qu'un rêve, sortir du Cameroun, et où la vie n'est pas possible. Donc, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont en Allemagne, ils sont en France, ils sont partout, mais ils fuient, hein, ils fuient tous un pays où il n'est pas possible de vivre, où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de soins, où il n'y a que la razzia, hein, de la classe comprador, comme on disait autrefois, mais un économiste actuel a trouvé une meilleure appellation. Il dit ce sont des expatriés. Hein. Ce sont des gens, ce sont des Africains, mais ils ont des palais à Bonn, ils ont des palais à Paris, et ils sont expatriés dans leur pays pour le piller. Alors, la collaboration entre l'exploitation éhontée par les grandes compagnies, hein, les successeurs, les multinationales qui sont les successeurs des grandes compagnies concessionnaires d'autrefois, et qui font le même travail de pillage, et les pouvoirs achetés. Alors aujourd'hui, on voudrait bien peut-être parfois faire l'économie de ces gens qui coûtent très cher quand même, et qui, les gouverneurs des colonies coûtaient moins cher. Et donc on voudrait bien moraliser peut-être, mais surtout ne rien changer derrière. Donc pourquoi ne pas revenir à une sorte de gouvernement direct? Et vous avez aujourd'hui des gens qui sont effectivement partisans que les Africains étant ingouvernables, il faut qu'on les gouverne nous-mêmes. Et on va revenir on va envoyer des troupes, on enverra des délégués, hein, des genre Kouchner, hein, il ira gouverner quelque part, quelque chose là-bas. Donc c'est ça, si vous voulez, qui politiquement perce à l'horizon, et les populations seront une fois de plus spoliées de leur liberté et de leurs biens.